Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix.
Vous connaissez désormais ce rendez-vous de l'actualité économique. Merci d'être nombreux à nous écouter. Ce numéro d'Economia se consacre à l'inflation et ses conséquences sur le pouvoir d'achat des ménages. Et pour décortiquer ce sujet, nous serons dans moins de 5 minutes avec Faustin Onozon, expert en économie et en intelligence économique et qui intervient dans le cadre de la rubrique Regard sur la gestion de l'économie nationale. Après, vous aurez les tendances de la bourse vers la fin de cette émission avec Wao Brice, un autre expert qui maîtrise l'univers boursier. Nous le retrouverons vers la fin de cette émission, mais démarrons maintenant avec le lexique économique pour une meilleure compréhension de certains termes économiques.
Le lexique économique. L'inflation.
L'inflation est la perte du pouvoir d'achat de la monnaie qui se traduit par une augmentation générale et durable des prix.
Le pouvoir d'achat d'un ménage.
Le pouvoir d'achat correspond à la quantité de biens et de services qu'un revenu permet d'acheter. Le pouvoir d'achat dépend donc du niveau du revenu et du niveau des prix.
La production nationale.
La production nationale, c'est l'ensemble des biens et des services produits au cours d'une année par l'économie nationale, à l'exception des services rendus par l'État.
Le taux directeur d'une banque centrale.
Le taux directeur est le taux d'intérêt fixé par une banque centrale pour les prêts qu'elle accorde aux banques commerciales qui en ont besoin.
Regard sur la gestion économique nationale.
Merci de suivre cette rubrique Regard sur la gestion de l'économie nationale. Et c'est avec Faustin Onozon. Monsieur Onozon, bonjour.
Bonjour.
Alors, on peut le dire, Monsieur Onozon, vous qui vous intéressez en tant qu'économiste à ce qui se passe dans le monde, la situation économique mondiale est inquiétante. Est-ce que vous partagez ce point de vue?
Oui, bien sûr. Bien sûr, avec d'abord le coronavirus que nous avons connu et qui a entraîné une baisse de la variation des différents PIB dans le monde. Et il faut dire que, après, on a connu, sinon on connaît encore, des cas d'inflation dans tous les États du monde. Et cette inflation n'est pas prête de prendre fin dans ce cas de figure. Qui dit inflation parle de baisse de pouvoir d'achat. Et qui parle de baisse de pouvoir d'achat parle, disons, d'un impact négatif sur la variation de la production nationale.
Alors, justement, vous avez utilisé un terme, l'inflation causée par ces chocs extérieurs, la COVID. Alors, le citoyen lambda peut se poser la question. Mais une maladie qui a commencé en Chine, bon, c'est vrai qu'il y a eu des cas ici en Côte d'Ivoire, mais en quoi cela peut jouer sur mon pouvoir d'achat? Qu'est-ce que vous répondez en tant qu'économiste?
Mais vous savez que lorsque la COVID a commencé, il y a eu une fermeture de toutes les frontières. Et il n'y avait plus véritablement de croissance macroéconomique. C'est-à-dire la croissance macroéconomique dépend de certains paramètres, tels que les investissements, la consommation, le solde du commerce extérieur. Justement, ce solde du commerce extérieur n'existait pas. Même les investissements étaient devenus rares et la consommation, elle aussi, était devenue rare. Dans ce cas de figure, les produits deviennent très chers. Et lorsque les produits deviennent très cher et que le salaire n'augmente pas, vous payez un peu plus cher. Donc, il y a une baisse de votre pouvoir d'achat.
Voilà. Concrètement, ça veut dire, pour aller un peu dans votre sens, du fait de cette maladie, que les commerces entre les pays, c'est avec beaucoup, beaucoup de difficultés, puisqu'on se dit ce sont les transactions qui peuvent véhiculer cette maladie, et donc on se méfiait de son voisin. C'est tout cela qui peut expliquer cette augmentation généralisée des prix qu'on appelle l'inflation, c'est cela?
Et bien sûr, quand on ne peut plus rien acheter, quand on ne peut plus avoir des relations financières avec l'étranger. Parce qu'on produit aussi par avantage comparatif. Lorsque ce que vous produisez sur votre territoire est beaucoup plus cher que ce qu'on produit à l'étranger, mais on préfère acquérir la marchandise à l'étranger. Voilà comment ça se passe. Mais cette marchandise, du fait de la fermeture des frontières, n'y vient plus. Celle qu'on a ici à l'intérieur va voir les prix de ces marchandises-là augmenter et cela va entraîner une inflation, j'allais dire une inflation galopante.
Alors, nous étions en train de sortir un peu de la COVID avec les différentes politiques pour soutenir les opérateurs économiques, pour parler de la Côte d'Ivoire notamment. Et puis, voilà, il y a cette guerre russo-ukrainienne. Au début, on a vu ça un peu loin. La Russie et l'Ukraine, c'est deux pays qui sont assez loin. On entend certains économistes, des autorités qui expliquent aussi des cas d'inflation dus à cette guerre-là. Vous, économistes, est-ce qu'effectivement une guerre qui se passe à des milliers de kilomètres peut avoir de l'impact sur nous?
Ah, mais bien sûr, parce que là, il s'agit du commerce international. Mm-hmm. Il y a beaucoup de produits qui viennent de ces pays. pays-là. De la Russie, de l'Ukraine, de l'Europe. Il y a des produits pharmaceutiques, des vivriers, il y a des produits finis, semi-finis, etc. qui viennent de ces pays-là. Et dès lors où on ne peut plus les avoir, leurs prix vont augmenter. Et si les prix augmentent et que cela se généralise, ça devient une inflation.
Mais intéressons-nous un peu à l'économie de la zone UEMOA. La Côte d'Ivoire faisant partie de cette zone-là. Comment cette zone économique et monétaire a pu résister, de votre avis, à ces chocs extérieurs
là? Oui, c'est vrai qu'on a pu résister par rapport aux autres pays qui ne font pas partie de notre union. Là où eux, ils attendent un taux d'inflation de 40%, nous, on était à 5-6%. C'est déjà une réussite totale dans le cadre de la gestion de notre politique économique et financière. Mais pourquoi est-ce qu'on a réussi?
Oui, justement, quels sont les secrets, hein? On peut vous poser la question.
D'abord, c'est le fait de l'union. C'est le fait d'appartenir à une union. On a une balance des paiements individuels, mais on a aussi une banque des paiements communes. Et lorsqu'on dégage un solde monétaire, c'est d'abord un solde monétaire commun. Et on a cette particularité de nous entraider. Et c'est déjà un point important en matière de gestion de nos différentes politiques économiques et financières. Et puis, on a aussi d'autres atouts. C'est que nous sommes avec toutes les institutions économiques et financières internationales. Toutes les banques, telles que la Banque mondiale, la BAD, le FMI, etc. Ce sont des institutions qui nous aident dans le cadre la gestion de nos politiques économiques et financières. Mais il y a d'autres pays qui ne sont pas en programme avec ces instances-là. Et il va de soi qu'en période de difficulté, que ces pays n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Mais ça n'a pas été le cas de nos différents pays. Et puis on a suivi, au niveau de notre Union, on a suivi le monde. Des pays où on parle, par exemple, je prends les pays de l'Europe, ceux qui relèvent de la BCE. Lorsque ces difficultés financières ont commencé, que ce soit la BCE, que ce soit la Fed, c'est-à-dire la Banque centrale américaine, et ces pays-là ont dû agir sur les différents taux directeurs.
Justement, quels sont les instruments qui ont été utilisés? Comment jugerez-vous l'efficacité de ces instruments-là pour juguler ces taux d'inflation dans ces différents pays? Vous parlez par exemple de l'UEMOA.
Mais il y a une baisse des taux d'intérêt. Lorsque le taux d'intérêt baisse, c'est qu'on couvre vers le crédit.
Le taux d'intérêt de quoi déjà?
Le loyer de l'argent. Voilà, parce que là, il y a eu une demande exceptionnelle de monnaie, une demande intérieure exceptionnelle de monnaie que les différentes banques centrales ont dû mettre sur pied. Parce qu'on ne vendait plus. Il n'y avait plus autre solution. L'unique solution qui restait, c'était de développer l'investissement. Et l'investissement, il fallait alors agir sur les taux directeurs. Et ça, d'une manière, j'allais même dire artificielle, les banques centrales ont dû créer de la monnaie. Et le fait que cette monnaie ne soit pas trop chère, le fait que les taux directeurs aient baissé, on a relancé l'économie par l'investissement. Et comment est-ce que cela s'est fait concrètement? C'est que cela a permis aux pays membres de l'UEMOA, par exemple, de mettre sur pied des bons du trésor, des bons des obligations du trésor, de les vendre à nos banques et à nos ménages et autres. Mais ces banques-là qui les achètent ont elles-mêmes obtenu un prêt auprès de la Banque centrale à des prix qui n'étaient pas très élevés. Donc elles ont pu satisfaire nos différents États et cela nous a permis de relancer l'investissement. Or, dès lors que vous relancez l'investissement, c'est que vous relancez aussi la consommation. Voilà. Donc on a eu une demande globale proactive, c'est le terme qu'il faut. Donc la demande s'est développée et dès lors que la demande se développe d'une manière positive, et elle a un impact positif sur le solde du commerce extérieur. Et ces différents impacts-là entraînent un taux de croissance positif. Voilà comment est-ce que nous avons fait pour sortir de l'ornière.
Alors, on sort de l'ornière aujourd'hui. Quelle est la situation? Quel est le tableau et éventuellement les perspectives pour 2023?
Mais je pense que les perspectives sont très bonnes. Par exemple, lorsqu'on parle de notre taux d'inflation, il était de 7,5% au niveau de l'UEMOA en 2022, contre 3,6% en 2021. Et mais en 2023, il y a un espoir. Ce taux d'inflation va un peu s'amenuiser. Et ce qu'il faut aussi retenir, c'est qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons un taux de croissance qui était de 2% en 2020, qui est passé à près de 7% en 2021. En 2022, il est revenu à près de 6%. Et je crois qu'en 2023, il y a encore une croissance qui sera positive. Et donc les perspectives, tant au niveau de l'Union qu'au niveau des pays pris individuellement, et celui que je connais le plus, c'est la Côte d'Ivoire, à notre niveau, les perspectives sont très bonnes. Et l'objectif, c'est de maintenir le pas.
Monsieur Nozon, on parlait éventuellement de cet aspect de gestion économique de la Côte d'Ivoire, le pays qui est dans la zone Uemwa, qui a réussi quand même à tirer son épingle du jeu. Voilà, pour les perspectives 2023, les autorités annoncent un taux de croissance à 7% et plus. Alors, pour vous, cette dynamique amorcée, malgré ces taux d'inflation notés ici et là, on peut y croire, malgré ce bourrasque connu, le pays peut maintenir le cap, de votre avis?
Ah oui, et c'est même visible. Je vous disais tantôt que d'abord, notre inflation va en baissant. C'est déjà un élément qui est positif. Et puis, notre croissance aussi est peut-être soutenue d'une manière ou d'une autre. Parce que partout, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, vous voyez qu'il y a des investissements dans tous les domaines. Mmh. Et notamment les routes, les hôpitaux, les ponts, tout ce qu'on peut imaginer. Or, l'investissement est le moteur de la croissance. Et ça, les Ivoiriens l'ont compris. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, partout où vous allez, ce sont des investissements à ne plus en finir. Mais ça, c'est bon pour une gestion économique et financière cohérente et optimale. Et dès lors où on s'est lancé dans cette politique, dès lors où on s'est lancé dans cette procédure de gestion de l'économie nationale, je pense qu'on ne peut qu'être optimiste quant à la suite des événements économiques et financiers.
Alors, tout est rose, on peut dire, ou bien il faut s'inquiéter quand même sur certains aspects, puisque ce sont des chocs extérieurs qu'on ne maîtrise toujours pas. Hein. On a vu un peu en 2020 le branle-bas. Hein. C'est vrai que les autorités ont pris des décisions pour essayer de juguler déjà l'impact de la Covid. Mais est-ce qu'on peut dire que cette lancée-là ne pourrait pas gripper éventuellement s'il y avait des situations imprévues?
Oui, c'est possible, mais tout dépendra des dispositions qu'on prend sur le plan interne. Surtout que pour ce qui est de la situation économique dans le monde, les chiffres que nous avons ne sont pas si éloquents que ça. Je vois par exemple le taux de croissance aux États-Unis qui était de 5,7% en 2021, qui passe à 1,6% en 2022, et en 2023, ça passe à 1%. Dans la zone euro, 5,2, et en 2021, 3,1 en 2022, 0,5 en 2023. Et c'est pour vous dire que le monde lui-même, en termes de gestion des paramètres macroéconomiques, il y a des difficultés à l'horizon. Ce qu'on peut demander à un pays comme la Côte d'Ivoire, c'est à travers lui, moi, de maintenir sa politique économique et financière, de maintenir les investissements, d'aller de plus en plus en termes d'investissement, et de développer ce qu'on appelle une demande globale, comme c'est le cas actuellement.
Et quoi la demande globale?
Mais c'est la consommation plus l'investissement. Et c'est le moteur de la variation positive de la production nationale. Et si cet état d'esprit est respecté, moi je pense que malgré les difficultés que nous traversons, que le monde entier traverse ou traversera, la Côte d'Ivoire pourra, à mon sens, se maintenir.
Alors, beaucoup se posent la question. Quand vous citez des pays comme les États-Unis, la France et bien d'autres pays européens, la Côte d'Ivoire, pays en développement, voilà, par rapport à ces pays développés, qui ont des taux de croissance de 1%, de 0,5%, pendant que nous, on ambitionne 7%, le citoyen se interroge, est-ce possible? Pourquoi, par exemple, nous, on parle de 7% pendant que ces pays nous prêtent l'argent?
Mais bien sûr. La croissance, c'est la variation de la production nationale. C'est vrai qu'on n'a pas le même niveau de production nationale. Mais à un moment donné, il faut faire une comparaison entre la production à la période N et la production à la période N plus 1. C'est cette variation-là qui met en relief le taux de croissance macroéconomique. C'est exactement les mêmes calculs que font les autres pays. Mais eux, c'est dans des proportions assez éloquentes, importantes. Voilà. Donc, qu'on soit un pays développé ou un pays en voie de développement, on a droit à une variation de la production nationale. Et ce que nous relevons, ce que nous récoltons en termes de variation, mais ce n'est pas la même chose que les autres récoltent, un pays comme les États-Unis, ou un pays, ou alors la zone euro, ou même la France, la Chine, etc. Mais cela ne veut pas dire que nous n'évoluons pas. Donc c'est par rapport à des périodes et par rapport à une production nationale. Ne regardez pas le niveau du taux, mais regardez plutôt les réalisations. Ceux qui réalisent un taux de croissance de 1%, mais en termes d'éloquence, ils ont des réalisations qui sont importantes. Mm-hmm. Là-bas, il est mieux même d'avoir un taux de 1% que d'avoir un taux de moins 1% ou moins 2%. Voilà, mm-hmm. Ce serait vraiment marquer une baisse assez importante du niveau de la production nationale.
En tout cas, c'est noté. Merci à vous, monsieur Nozon. On comprend un peu mieux, justement, l'impact de ces chocs extérieurs. Voilà, la COVID, la guerre russo-ukrainienne ou des situations imprévues dans l'économie d'un pays et comment le pays réussit à résister. En tout cas, c'est important de mieux comprendre ces mécanismes-là et vous nous avez expliqué. On va aborder dans notre prochain numéro justement des aspects plus concrets pour savoir en quoi ces chocs-là pourraient être évités. Vous avez donné quelques éléments, mais on revient la semaine prochaine. Amis auditeurs, merci de votre fidélité. Merci à vous, M. Onozon.
Merci.
Tendance de la bourse.
Les tendances de la bourse avec toujours au rendez-vous Monsieur Kouaho. Monsieur Kouaho, bonjour à vous.
Bonjour Monsieur Komi, bonjour à tous les auditeurs.
Il y a des termes que nous entendons dans la bourse. On parle d'entreprises cotées, des entreprises non cotées. Qu'est-ce qu'une entreprise cotée et une entreprise non cotée?
Une entreprise cotée, c'est une entreprise qui inscrit à la cote une partie de ses actions. La cote ici, c'est dit la bourse, le marché. Toutes les entreprises ont des actions. Donc, quand vous voyez sur un calendrier, FARL, FA, sont des entreprises qui ont des actions. Donc, le concept d'action, ne le limitez pas à la bourse, au marché financier. Les actions sont détenues par les actionnaires, les propriétaires de l'entreprise. Dans le cas du développement de l'entreprise, elle peut avoir besoin de capitaux. Pour satisfaire ce besoin-là, elle peut venir vendre des actions à d'autres personnes via les marchés financiers et lever des fonds. Lorsqu'elle fait cette cession-là, ces actions restent sur le marché financier pour permettre aux actionnaires de se refinancer. Donc, vous avez acheté des actions d'une entreprise et vous voyez qu'après, l'action ne se comporte pas comme il faut. Vous remettez en vente vos actions et un autre investisseur intéressé l'achète. Donc, le marché permet la circulation de ces actions-là. Donc, des actions inscrites à la cote sont inscrites en bourse, circulent entre les mains d'investisseurs. Et des entreprises non cotées, c'est des entreprises normales que des actions qui ne sont pas sur le marché.
Alors, mais quels sont les avantages d'avoir, par exemple, des actions d'une entreprise cotée et les risques aussi d'avoir des actions d'une entreprise non cotée?
Je vais prendre des cas simples. Deux entreprises, effectivement, se présentent à vous. Vous devez tenir compte d'un aspect qui est méconnu par les néophytes, c'est l'aspect de la liquidité et l'aspect de la valorisation en cas de cession. La liquidité, qu'est-ce que j'entends? J'achète 25% d'un supermarché. Par la suite, j'ai des difficultés financières, je veux récupérer une partie de mon argent. Comment je fais? Je retourne vers mes associés pour dire « Ah, est-ce que c'est pas possible d'avoir un peu d'argent ?» On dit « Non, c'est une entreprise normale. » La caisse là, c'est pas tontine. L'entreprise va travailler, en fin d'année, tu auras tes dividendes. Et ils ont raison de vous dire ça. On peut toujours t'aider, mais il faut alors que l'un d'entre nous achète une partie de tes actions pour de ce fait te donner un peu d'argent. Mais est-ce que ce marché qu'on entend de créer là est liquide? Est-ce que les gens ont forcément l'argent de 5%, de 10% de la valeur de l'entreprise? Donc, va se poser le problème de la liquidité. Je ne peux pas vendre facilement quelque chose parce qu'il n'y a pas facilement une contrepartie en face. Mais deuxième problème, je vends à quel prix? Quand on faisait le supermarché au début, il y avait juste le capital social. Aujourd'hui, le supermarché existe, il a des clients, il a une valeur. Comment on détermine cette valeur-là? Est-ce qu'on va aller prendre un cabinet, venir faire une étude compliquée pour dire, bon, l'entreprise vend 100 millions. Donc, chacun d'entre vous, là, vous pesez 25 millions. Donc, moi, je dois te donner 5 millions. Mais je n'ai pas 5 millions, j'ai 2 millions. Ce sont des discussions très compliquées. Quand une entreprise cote ses actions en bourse, ces deux problèmes de liquidité et de valorisation sont résolus. Le deuxième problème, la valorisation, quand vous allez à la bourse, chaque jour, chaque minute, où est le prix des actions. C'est le marché qui fixe directement le prix de l'action. Donc, si tu veux vendre, tu ne te poses pas la question à quel prix vendre. Le prix est déjà proposé là. Première chose. Deuxième chose, tu peux trouver une contrepartie en face. Ce n'est pas forcément la personne qui t'a vendu au jour où tu achetais, mais c'est tout autre investisseur qui se joue là serait acheteur. Tu fais juste ton ordre de bourse, tu déposes à ta RG, la RG insère ça dans le système et suit la transaction. Donc il y a une meilleure liquidité, ça permet à un actionnaire de récupérer un peu.
Vous remettez vos actions sur le marché, quelle que soit la personne, si elle est intéressée, elle achète.
Voilà, le marché est impersonnel. Voilà, donc vous n'êtes pas en train de chercher quelqu'un qui va venir acheter vos titres pour vous donner les fonds. Première chose, deuxième chose, vous n'êtes pas en train de discuter avec quelqu'un pour convenir d'un prix. Vous mettez juste en vente. Donc, ça permet de répondre aussi à une question peut-être qui n'a pas été posée sur la liquidité. Il y a des gens qui investissent en bourse et puis qui vendent de temps en temps des titres pour résoudre des problèmes. La rentrée scolaire, par exemple. C'est la preuve qu'en fait, un marché liquide est toujours mieux pour un investisseur que de le souscrire à des parts d'un supermarché et puis après, pour avoir même 1 million pour résoudre un problème, de devoir attendre qu'un actionnaire veuille bien me le donner dans des conditions qu'on doit définir ensemble.
Mais quels sont les risques pour l'entreprise d'avoir des individus aujourd'hui, M. Kouaou est propriétaire donc, de mes actions. Demain, parce qu'il a des problèmes, il a vendu. M. Gomé vient de l'acheter. Madame Ménan, ce n'est pas risqué pour cette entreprise ?
Non, pas du tout. En fait, il faut savoir dans quelle proportion tout ça s'est fait. Effectivement, si tu es strictement un associé gérant minoritaire chez agent 20-25% de ta boîte et qui a 75% sur le marché financier, tu n'es pas à l'abri que quelqu'un achète 50% un jour et vienne tout changer dans ta boîte, y compris toi-même te démettre de ton poste de gérant. Chez nous ici, ça ne se passe pas comme ça. Parce que, comme je l'ai dit, ce n'est pas des entreprises en besoin qui viennent. C'est des entreprises qui sont déjà assises et qui, par des contraintes légales, un peu de pression, de lobbying, ont dit non, essayez de sortir, de faire cette opération-là en bourse pour que le grand public s'associe à ça. Mais quand elles décident de le faire, elles le font à des conditions qui les protègent de ça. La plupart des entreprises que j'ai vues récemment en bourse ont ouvert à hauteur de 20% seulement leur capital à la BFM. 20%. Bon, si 20% change demain, ça n'a aucun impact.
Voilà mes auditeurs, entreprises cotées, non cotées, on vous l'a expliqué. C'est là, c'est la fin. Merci à vous, M. Kouaou.
Merci, M. Koumi. Merci à tous les auditeurs.
Allez, à la semaine prochaine.
Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix.
Tous les lundis, après les journaux de 8h et 18h.